Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire, des mots pour le dire, Méandre de l'amour, Eros et Agapé, livre paru aux éditions Dervy de Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Donc nous nous retrouvons pour entamer la deuxième partie de ce chapitre intitulé Amour et sacrifice que nous avons commencé la semaine dernière. Et avant de vous céder la parole, Michel, si vous me permettez, comme toujours, en introduction, quelques citations, et je commencerai par celle de Boris Vian qui dit « Ce qui m'intéresse n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun ». Et puis, en jetant un regard en arrière dans le temps, j'en viendrai à Aristote qui dit « Le sacrifice de soi est la condition de la vertu ». Puis, de José María Escrivá Balaguer qui disait « Les chemins de l'amour s'appellent sacrifice ». Et puis, enfin, pour terminer, Alphonse Allais qui dit « Quoi de plus inhumain qu'un sacrifice humain ?» Voilà, là ça vous retrouve.
Ah oui, absolument.
J'ai sauvé la mise.
Oui, heureusement, avec la quatrième citation, je suis entièrement d'accord, Alphonse Allais a raison. Hein. Mais la seconde, la deuxième et la troisième me semblent très problématiques. Hein. L'amour exigeant le sacrifice, je vais essayer de développer cela. Alors, je m'excuse par avance, mais je vais parler un petit peu de théologie, puisqu'aussi bien l'amour est une notion très vaste, on peut parler de l'amour de Dieu, au sens où l'amour que Dieu a pour nous, hein, ou bien l'amour que nous avons aussi pour Dieu, et comme je l'ai dit la dernière fois, comme notre culture est tout imprégnée de 2000 ans de christianisme, et comme une tendance, hélas majoritaire à mon avis, dans ce christianisme, il faudra en discuter, hein, c'est une tendance vers le sacrifice, hein, le christianisme, de la rédemption sacrificielle, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette tradition culturelle modèle un peu nos habitudes quant à la considération de l'amour profane, hein, de l'amour entre des êtres humains, vous voyez. Donc faisons d'abord des petites remarques liminaires sur ce qu'il en est de ce sacrifice dans la religion chrétienne. Cette vision du Dieu amour, donc c'est la vision d'agapé qui est appliquée à Dieu, chez les chrétiens, elle est très répandue et on se gargarise toujours de cette expression « Dieu est amour », à partir de quoi, évidemment, on invite le croyant à faire de même, à aimer Dieu lui aussi, hein. Cette inscription, elle figure au fronton de beaucoup de temples et d'églises. Je pense par exemple au temple de Marcillargues, tout proche de Montpellier, hein, au fronton duquel est inscrit ce « Dieu est amour hein, ». Voilà. Mais c'est tout, il n'y a pas la suite. Hein, et je vais dire pourquoi cela pose problème. Cette inscription invite assurément, de façon très engageante, à une réconciliation avec un Dieu qui nous aime constamment. Mais ce qui me gêne, c'est qu'elle est toujours mise hors contexte. Et pour voir de quel amour il s'agit dans l'esprit du rédacteur, il faut lire en entier le passage de cette première lettre de Jean. Alors je la lis, c'est Jean, première lettre de Jean, chapitre 4, versets 8 à 10. Hein. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc c'est le verset 8, le verset essentiel. « Otéos agapé estin, Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ça c'est le verset 9. Et cet amour, voici ce qui me pose problème, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 10. Alors, tout le monde serait d'accord, bien sûr, avec cette idée qui a priori nous comble du verset 8 sur le Dieu amour, Dieu est amour, et aussi peut-être avec celle du verset 9, selon laquelle la vie peut nous être donnée par le Fils, à condition cependant, selon moi, qu'il s'agisse d'écouter ce qu'il nous dit, de préférer, je dirais, pour faire un jeu de mots, un Jésus enseignant qui nous sauve à un Jésus qui nous sauve enseignant, en quelque sorte. Hein. Mais l'idée que l'on voit dans le dernier verset, le verset 10, celle d'un Dieu qui recouvre une dette, me semble peu compatible avec l'idée que l'on se fait d'habitude de l'amour. Hein. Victime expiatoire, c'est en grec « hilasmos hein. ». Normalement, L'amour doit être désintéressé et pardonnant. Or, on ne réfléchit pas que si Dieu n'a pas hésité à livrer son Fils en victime expiatoire, je répète, hilasmos en grec, victime expiatoire pour racheter nos péchés, cela exclut l'idée de pardon. Pardonner, me semble-t-il, implique que l'on efface l'ardoise, que l'on annule une dette et non pas qu'on recouvre la dette. Si le créancier a été payé, il n'a pas pardonné. Il n'a fait que montrer sa dureté. Donc ce soi-disant Dieu amour apparaît ici particulièrement barbare et inadmissible à la raison. Et c'est ainsi que l'ont compris d'ailleurs les Sauciniens, disciples des Saucins, l'oncle et le neveu, que l'on a écrété hérétique. Alors on peut bien dire, après saint François d'Assise, que l'amour n'est pas aimé, c'est vrai, mais pas s'il s'agit de cet amour divin qui est bien singulier, vous voyez. Alors, j'imagine aussi ce que dirait un voltairien, je m'excuse de remuer la doxa, le catéchisme. Un voltairien dirait que si le Christ, selon Paul, est mort pour nos péchés, ne pourrions-nous pas pécher encore pour qu'il ne soit pas mort pour rien, vous voyez. Alors, bien sûr, cette remarque n'a pas beaucoup de profondeur. Mais Voltaire disait lui-même, je suis comme les petits ruisseaux, je ne suis clair que parce que je ne suis pas profond, vous voyez. Et alors il faut noter que ce scénario est exactement celui de la messe catholique romaine traditionnelle à partir de l'offertoire, où il s'agit bien de consacrer une victime, en latin hostia, qui a donné hostie, ça veut dire victime en latin. Cette victime est promise à un sacrifice sur un autel qui est bien dévolu à cet usage, le prêtre jouant le rôle d'un sacrificateur. Et c'est un sacrifice propitiatoire destiné à apaiser, en latin placaré, un Dieu qui est courroucé. Alors bien sûr, ce que je dis ne vaut pas pour mes chers amis protestants qui ne voient pas du tout le sacrifice de la messe de cette façon. Mais enfin, moi qui étais élevé, comme disait Mauriac, in hymnis et canticis, dans les hymnes et les cantiques, dans un milieu catholique, je me souviens bien ce que disait cet ordinaire de la messe selon Saint Pie V. Voilà, il le disait en latin, anquigitur oblat quae sumus domine ut placatus accipias, c'est-à-dire, cette offrande donc que nous te présentons, nous te demandons, Seigneur, de l'accepter en étant par elle apaisé, vous voyez, apaisé. Il y a aussi la prière eucharistique numéro 3 de la messe selon Paul VI, agnosce hostiam cuius voluisti immolatione placari. C'est-à-dire, reconnais, Seigneur Dieu, cette victime par l'immolation de laquelle tu as voulu être apaisé. Alors, je sais bien qu'on traduit aujourd'hui dans les missels en langue vernaculaire, en français, et non plus en latin, on traduit souvent « pour te plaire ». Cette victime reçoit là « pour te plaire ». Mais c'est un contresens, parce qu'on confond « plaquere » en latin qui veut dire « plaire » et « placare » qui veut dire « apaiser ». Or, le texte liturgique a bien « placare ». Voyez le mot « implacable », par exemple. Et voyez aussi le fameux « et de son père arrêter le courroux » dans le minuit chrétien que nous allons étudier tout à l'heure. Alors, pour résumer, je dirais qu'heureusement que les protestants n'admettent pas cette liturgie sacrificielle, à mon avis, qui ne nous donne pas de Dieu une image très reluisante. Un Dieu qui doit être payé par un sacrifice, même si cette victime, c'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution vicaire pénale. Il a pris une autre place, il a porté les péchés, sur lui-même. C'est le thème de l'Agnus Dei aussi, du bouc émissaire, de la victime expiatoire. Alors, maintenant vous allez me dire quel rapport avec nos émissions sur l'amour. Eh bien, je pense que cette messe catholique, qui a été majoritaire, bien sûr, les protestants n'ont pas eu la majorité de pensée là-dessus, cette messe a structuré pendant de longs siècles l'imaginaire et la Weltanschauung, ce que disent les Allemands, c'est-à-dire la vision du monde de l'Occident. Et il n'est donc pas étonnant que les versions sacrificielles de l'amour humain, qui est calquée alors sur ce schéma religieux qu'elles imitaient, aient eu tant de succès chez nous. Alors on a voulu aimer moins par ouverture naturelle du cœur que pour payer une dette. pour s'acquitter de cette dette auprès d'un créancier redoutable et acquérir ainsi, à force d'efforts et de peines, un certain mérite personnel propre à fléchir ce dieu courroucé. Hein. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite en tirerez-vous » dit Matthieu. Hein. L'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 46. Donc, rien de plus intéressé au fond que cette idée de mérite ou de récompense dans la pratique de l'amour, mais aussi rien de plus ancré dans le cœur et la conduite de certains. Évidemment, l'image n'est pas très glorieuse, hein, et de toute façon, les âmes restent dans cette optique, dans ce scénario, très resserrées et non pas ouvertes. Et Gide dit très bien, dans une formule que j'ai signalée lors de la dernière émission, dans les nourritures terrestres, « supprimer en soi l'idée de mérite, il y a là une grande pierre d'achoppement pour l'esprit. Je n'aime point ceux qui se font un mérite d'avoir péniblement œuvré, car si c'était pénible, ils auraient mieux fait de faire autre chose. » Je crois que vous êtes d'accord avec ça, Redouane, avec cette idée du mérite, et je vous vois hocher la tête, un acquiescement. Donc, pour résumer, je dirais que je ne sors pas du sujet de l'amour humain en parlant théologie, parce que, précisément, l'arrière-plan, le background hein, de toute notre culture, c'est évidemment cette idée chrétienne, depuis 20 siècles, hein, d'un sacrifice expiatoire. Je sais très bien que la recherche théologique, surtout protestante, conteste cette idée. Hein. Et bon, malheureusement, restent les textes. Et moi, je suis littéraire, vous savez, Redouane. Hein. Et donc, les textes sont implacables eux-mêmes. Vous voyez, non ?
Oui, sur ce que dit l'évangéliste Matthieu, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite en tirez-vous ? C'est une interpellation. Moi, je le reçois comme une interpellation. Le mérite n'est pas toujours un investissement, avoir un retour sur investissement. Mais c'est vrai que je n'ai aucun mérite d'aimer ma femme, mes enfants. J'ai plus de mérite à aimer quelqu'un de peu aimable. Et du coup, la dynamique de l'amour de Dieu, telle qu'elle est conçue dans le Nouveau Testament, c'est faire entrer dans cet amour même celui qui représente l'altérité, hein, c'est-à-dire tout ce qui est le plus différent de moi. Comment je peux aller vers l'autre ? Et c'est tout à fait d'actualité, aujourd'hui on parle du vivre ensemble. Comment vivre ensemble si on se hait ?
Absolument. Alors le terme grec pour le mérite, la récompense, c'est mistos, hein, ktina, miston et kété. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en tirez-vous, hein ? Alors je comprends effectivement que l'injonction d'aimer son prochain, ce n'est pas le trouver sympathique. Hein, je peux très bien ne pas trouver sympathique mon voisin de palier, par exemple, et cependant l'aimer inconditionnellement.
Hein, voilà, ne pas être indifférent à son sort.
Voilà, ne pas être indifférent à son sort. Vous voyez la magnifique parabole du bon samaritain. Hein. Alors, j'ai choisi comme première respiration musicale ce fameux Minuit chrétien. Il est intempestif, hein, il est hors du propos chronologique, puis nous acheminons vers Pâques, et Noël est derrière nous. Hein. C'est un chant que l'on chantait autrefois à la messe catholique pour Noël. Et écoutez bien les paroles qu'il contient.
Passer la tâche originelle et de son vin.